Dans beaucoup de pays d'Afrique, d'Asie, d'Océanie et d'Amérique latine, l'entraide est une condition sine qua non de survie pour les petites gens. Par contre, en Europe et dans les nations industrialisées, où l'individualiste est roi, ou au moins prince, on essaye le plus possible de vivre retiré sur soi et donc de se passer des autres. Mais cette attitude suffisante est plutôt un recul social, parce que les êtres humains sont conçus pour coopérer et s'entraider. Dans l'Église de Jésus-Christ, il n'y a pas de place pour les francs-tireurs, car les Écritures enseignent que nous avons besoin les uns des autres, et nous devons nous serrer les coudes afin de remplir notre mandat, qui est d'annoncer la bonne nouvelle à toute créature. Je continue de lire dans la troisième épître de Jean. C'est donc notre devoir d'aider de tels hommes. Ainsi, nous collaborons à ce qu'ils font pour la vérité. L'apôtre, qui écrit à son ami Gaius, l'a d'abord félicité parce qu'il est toujours prêt à contribuer au soutien des prédicateurs de passage dans sa ville dans le but d'évangéliser ou d'enseigner la vérité. Maintenant, Jean étend ce devoir d'accueil et de solidarité à tous les croyants. En effet, toute personne qui appartient à Jésus-Christ est automatiquement incorporée dans son armée. Car, faut-il le rappeler, nous sommes engagés dans un combat, une lutte sans merci contre les puissances des ténèbres. Ceux qui partent sur le front pour annoncer la bonne nouvelle du Sauveur ou renforcer la foi de ceux qui sont en première ligne ont besoin que l'intendance suive et que toute une logistique se mette en place pour eux et qu'elle soit efficace. Quand j'étais militaire, on nous envoyait en plein hiver quelque part dans le nord de l'Allemagne, dans un trou perdu surnommé la Petite Sibérie. Je fais donc mon paquetage, je vais chercher mon flingue, le sergent me met un camion entre les mains et me dit « Tu suis la Jeep qui est devant toi. » Je n'ai pas fait de provisions pour la route et je ne savais même pas ni combien de temps le voyage durerait, ni quelle serait la durée des manœuvres. Pourtant, je ne me suis pas du tout inquiété parce que je sais, sans l'ombre d'un doute, que quelqu'un s'occupera de la bouffe et que nous aurons 3 repas par jour, froid peut-être, mais quelque chose à se mettre sous la dent quand même. J'étais en mission, mais pas abandonné. C'était pas le grand luxe, puisqu'on a dormi dans les camions à l'heure qu'il le faisait -20 dehors. Mais tous nos besoins étaient pris en compte. Dans sa première épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul écrit « Dites-moi, avez-vous jamais entendu parler d'un soldat servant dans une armée à ses propres frais ? Ou d'un vigneron qui ne mangerait pas des raisins de la vigne qu'il a plantée ? Quel berger élève un troupeau sans jamais profiter du lait de ses brebis ? Plus loin, Paul ajoute, de même, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent la bonne nouvelle qu'ils vivent de cette annonce de la bonne nouvelle. Et dans sa première lettre, à son disciple Timothée, il dit « Les responsables qui dirigent bien l'Église méritent des honoraires doubles, notamment ceux qui se dévouent au ministère astreignant de la prédication et de l'enseignement. » Les disciples de Jésus-Christ doivent être prêts à aider avec leurs ressources, leur temps et leurs deniers. Ceux qui sont sur le champ de mission pour annoncer et enseigner la bonne nouvelle de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Certains croyants s'engagent à servir le Seigneur à plein temps, loin ou près, et dans des capacités très variées. D'autres exercent simplement un métier séculier là où ils se trouvent, mais ils sont aussi appelés à participer à l'effort commun en priant pour les soldats qui sont en première ligne et en ouvrant leur maison et leur porte-monnaie pour les soutenir matériellement. Que les croyants partent au loin ou qu'ils restent dans leur camp de base, ils sont tous engagés dans un même combat appelé à œuvrer ensemble pour la vérité, comme le dit si bien Paul aux Colossiens. dans tout ce que vous pouvez dire ou faire, agissez au nom du Seigneur Jésus, en remerciant Dieu le Père par lui. Oui, mais voilà. Entre la façon dont les croyants devraient se conduire et comment ils agissent véritablement, il y a un écart considérable à cause du péché qui est encore très présent dans nos vies. C'est malheureux à dire, mais la caractéristique qui définit le mieux le cœur humain, y compris celui des croyants, est l'orgueil. Et cet orgueil fait que je tire la couverture à moi. Moi d'abord, et les autres après. Voilà bien ce qui pousse la plupart des gens à se désintéresser de Dieu, à lui être infidèle et à l'offenser. Il faut bien savoir que c'est par orgueil que Satan a cherché à s'élever au-dessus de Dieu. C'est par orgueil que les êtres humains font grand cas de leur personne, s'exaltent eux-mêmes et veulent s'élever au-dessus des autres en occupant un poste bien en vue, une position de pouvoir et d'influence. Tous ceux qui donnent libre cours à leur orgueil entrent dans le panthéon de la honte. Si Ève a mangé du fruit défendu, c'est par orgueil, car elle veut croire le mensonge de Satan qui lui promet qu'elle possédera la sagesse de Dieu. Après l'histoire d'Adam et Ève, la race humaine dégénère toujours davantage. Le mec, descendant de Caïn, est un meurtrier comme son ancêtre et le tout premier polygame. C'est lui qui écrit le poème le plus ancien de l'histoire de l'humanité qui est parvenu jusqu'à nous. Et on pourrait lui donner pour titre « Éloge d'une arrogance meurtrière ». Je lis ce texte qui se trouve dans le chapitre 4 du livre de la Genèse. Le mec dit à ses femmes, « Ada, et Scylla. Écoutez-moi bien, femme de l'Émec, et prêtez l'oreille à ce que je dis. J'ai tué un homme pour une blessure et un jeune enfant pour ma plaie. Caïn sera vengé 7 fois et l'Émec 77 fois. Après l'Émec, l'humanité s'enfonce encore un peu plus dans l'infamie avec l'arrivée sur scène de Nimrod, un nom qui signifie rebelle. Il a l'honneur d'être le premier grand tyran qui sort de la race humaine, décrit comme exerçant un grand pouvoir sur la terre. Son orgueil démesuré le propulse à la tête du premier empire que le monde a connu. Décidé de rivaliser avec Dieu, il est l'architecte de la tour de Babel, érigée en l'honneur de l'orgueil des hommes et de leur rébellion contre le Créateur. C'est également Nimrod qui est l'ancêtre des hommes qui créent les empires acadiens, assyriens et babyloniens. Après être venu le grand patron du Moyen-Orient, Nabucodonosor fait une grosse crise de mégalomaniaquerie. Le prophète Daniel rapporte qu'un jour, et alors qu'il se promène sur le toit de son palais à Babylone, le roi prend la parole et dit, « N'est-ce pas là, la Babylone, la grande que moi j'ai bâtie pour en faire une résidence royale ? C'est par la grandeur de ma puissance et pour la gloire de ma majesté que j'ai fait cela. » Mais l'Éternel n'a pas du tout apprécié l'arrogance de Nabucodonosor et lui a rabaissé le caquet en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Dans le texte de Daniel, on lit « Ces paroles étaient encore sur ses lèvres qu'une voix retentit du ciel. « Roi Nabucodonosor, écoute ce qu'on te dit. Le pouvoir royal t'est retiré, on te chassera du milieu des humains et tu vivras avec les bêtes sauvages. Tu te nourriras d'herbe comme les bœufs. Tu seras dans cet étang durant 7 temps, jusqu'à ce que tu reconnaisses que le Très-Haut est maître de toute royauté humaine et qu'il accorde la royauté à qui il lui plaît. » Au même instant, la sentence prononcée contre Nabucodonosor fut exécutée. Dans son évangile, Luc rapporte que Jésus appelle le roi Hérode Agrippa un renard. Oui, et ce renard a aussi fait le beau comme le corbeau de la fable de La Fontaine. Très prétentieux, il décide un jour de bomber la poitrine en organisant une fête en son honneur. Tandis qu'il fait un discours éloquent, ses sujets, ravis et incapables de se contenir, s'écrient « Ce n'est plus un homme qui parle, c'est la voix d'un dieu !» Là non plus. L'Éternel n'apprécie pas, car le texte dit « Au même instant, un ange du Seigneur vint le frapper parce qu'il n'avait pas rendu grâce à Dieu pour l'honorer, comme il est dû. » Dévoré par les vers, il expira. La fête n'était pas censée se terminer d'une manière aussi abrupte et inattendue. Le corbeau n'a perdu qu'un fromage, mais Hérode son plumage. Matthieu rapporte que Jésus a très bien décrit l'esprit orgueilleux des pharisiens quand il a dit « Dans tout ce qu'ils font, ils agissent pour être vus des hommes. Ainsi, les petits coffrets à versets qu'ils portent pendant la prière sont plus grands que ceux des autres, et les franges de leurs manteaux plus longues. Ils affectionnent les meilleures places dans les banquets et les sièges d'honneur dans les synagogues. Ils aiment qu'on les salue sur les places publiques et qu'on les appelle maîtres. Même les disciples de Jésus sont teintés d'ambitions orgueilleuses. En effet, un jour, la mère de Jacques et Jean vient voir le Seigneur en compagnie de ses deux fils et lui demande « Promets-moi de faire siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ton royaume. » Cette femme, qui est au service de Jésus, tente ni plus ni moins de le manipuler. Quel culot ! Mais au lieu de se fâcher, le Seigneur utilise cet incident pour enseigner l'humilité. Il réunit ses disciples et leur dit « Vous savez ce qui se passe dans les nations ? Les chefs politiques dominent sur leur peuple et les grands personnages font peser sur eux leur autorité. Qu'il n'en soit pas ainsi parmi vous, au contraire. Si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir lui-même et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Le despote dont il est question dans le troisième épître de Jacques est le descendant direct d'une longue lignée de dictateurs animés par le désir d'avoir la prééminence par tous les moyens. Jean a commencé sa petite lettre par ce qui est agréable à entendre. Il complimente Gaius pour son attitude pleine d'attention à l'égard des prédicateurs itinérants et tire les enseignements appropriés de sa conduite exemplaire. Mais brusquement, le ton de la lettre change parce que Jean est obligé d'aborder le sujet épineux du moment, les méfaits d'un certain Diotrephe. Bien plus ennuyeux qu'un cheveu sur la soupe, ce sombre personnage noircit les pages du Nouveau Testament en tant que contre-exemple, ce qu'il ne faut ni être ni faire dans une assemblée chrétienne. Je continue maintenant de lire le texte de 3 Jean. J'écris quelques mots à l'Église, mais Diotrephe, qui aime être le premier, ne tient aucun compte de nous. Tout comme Moïse est l'auteur des saints livres de l'Ancien Testament, Jean en a également écrit 5. L'Évangile et l'Apocalypse qui portent son nom, et les 3 épîtres ou lettres vers la fin du 1er siècle. C'est comme on le pense, ces 5 ouvrages ont été composés dans l'ordre que je viens d'indiquer. La 3e lettre de Jean est le chant du signe de l'apôtre. Nous avons donc devant nos yeux les derniers mots du grand apôtre. On aurait pu penser que tant qu'il était encore en vie, tous les responsables d'église du 1er siècle auraient marché droit en obéissant au doigt et à l'œil à ses exhortations, tout comme le cher Gaius, mais ce n'est évidemment pas le cas. Le contraste entre Gaius, le juste, et Diotrephe, l'impie, est frappant, car ils sont aux antipodes l'un de l'autre. Alors que le premier est hospitalier, plein de grâce, l'autre est son contraire. Gaius aime la vérité et dit au trèfle, adore se regarder dans une glace. En fait, du bronze poli. Et il est émerveillé par ce qu'il voit, car il s'aime lui-même. Il se sert de la position d'autorité qu'il a réussi à usurper. Probablement par l'intimidation pour tyranniser l'Église. Jean ne réprimande pas, dit Autreffe, pour une hérésie, mais pour son arrogance. L'apôtre dit avoir déjà écrit une lettre à l'Église, et comme il utilise le singulier, c'est qu'il parle de la même assemblée dans toutes les lettres. C'est donc Gaius qui fait partie. Mais il ne semble pas que ce dernier soit au courant de l'existence de cette lettre, bien qu'elle ait été adressée à l'assemblée dont il est l'un des responsables. Cette lettre s'est donc perdue, et tout porte à croire que Diotrephe l'a interceptée. En tout cas, Jean explique brièvement à son ami Gaius ce qu'il en est de Diotrephe, un nom qui signifie « nourri de Zeus » et qui est aussi rare que Gaius est courant. Les commentateurs pensent que Diotrephe est un nom donné seulement à certains enfants de famille noble. Si c'est le cas, cela explique d'où lui vient son arrogance. La description que Jean fait de Diotrephe, à savoir que « il aime être le premier », est au cœur même du problème. En grec, cette expression est un participe composé de « aime » et « premier ». Être étant sous-entendu. En un seul mot, Jean peint les mobiles de Diotrephe, qui sont aussi ceux de tous les chefs de parti, de tous les fondateurs de sectes. Ce sont de gros égoïstes imbus et centrés sur eux-mêmes. L'orgueil, une vaniteuse ambition, est la cause de la plupart des divisions partout et en tout. En voulant être le premier, Diotrephe rejette les autres et les paroles de Jésus qui dit « Celui qui s'élève sera abaissé. Beaucoup qui sont maintenant les premiers seront les derniers. » Dans le Nouveau Testament, le mot grec pour « le premier » n'apparaît qu'ici et dans l'épître de Paul aux Colossiens où il est question de la prééminence de Jésus-Christ parce qu'il occupe le premier rang en tout. Indirectement, Jean accuse donc Diotrephe d'usurper la place de Jésus. C'est très grave, parce que par son ambition personnelle et le pouvoir despotique qu'il exerce au sein de l'Église, qu'il dirige à sa manière, Diotrephe occupe effectivement le rôle du Seigneur, qui est le seul chef de l'Église. Il n'est donc pas surprenant que Diotrephe n'accepte pas l'autorité apostolique de Jean, et qu'ils ne tiennent pas compte de ses paroles. Je continue le texte de 3 Jean. Ainsi, quand je viendrai, je rendrai les autres attentifs à sa manière d'agir. Il tient de méchants propos contre nous, et nous, non contents de cela, il refuse de recevoir les frères de passage. En plus, ceux qui seraient désireux de les accueillir, il les empêche et les chasse de l'Église. Littéralement, Jean dit, je ferai souvenir de ses œuvres. À cause de son arrogance, Jean a bien l'intention de dénoncer et reprendre publiquement Diotrephe devant toute l'assemblée. Cependant, si sa menace est modérée et douce, c'est parce que l'autorité apostolique est avant tout d'ordre moral. C'est l'autorité de la vérité seule. C'est aussi de cette manière que toute Église qui suit le modèle du Nouveau Testament doit fonctionner. Dans sa première lettre à Timothée, l'apôtre Paul écrit « Ceux qui ont péché, reprends-les devant tous, afin que cela inspire de la crainte aux autres. » C'est d'ailleurs ainsi que Paul a lui-même agi dans l'Église de Corinthe. Indirectement, Jean sollicite le soutien de Gaius, qui par ses richesses et peut-être aussi par sa position sociale est bien placé pour lancer un défi à l'autorité de Diotrephe. En quelques mots, Jean adresse 4 reproches à Diotrephe. Premièrement, il s'est rendu coupable de tenir contre lui de méchants propos. La diffamation est l'arme préférée des politiciens et tous ceux qui cherchent à s'élever au-dessus des autres. Au lieu de gagner la confiance du peuple en manifestant un caractère vertueux, les médisants essayent de démolir la confiance accordée à d'autres qu'à eux-mêmes. Le verbe grec rendu par « tenant de méchants propos » n'apparaît qu'ici dans le Nouveau Testament, mais un mot similaire est rendu par « parler à tort et à travers » dans la première lettre de Paul à Timothée. Les accusations malveillantes de Diotrephe contre Jean sont perverses, fausses et diffamatoires. S'il s'attaque sauvagement à l'apôtre, c'est parce qu'il le perçoit comme une menace contre son trône, son pouvoir et son prestige au sein de l'Église. C'est aussi ce qu'ont fait les faux enseignants contre Paul dans l'Église de Corinthe. Les Écritures condamnent sévèrement et de manière répétitive toute forme de calomnie et de médisance. Deuxièmement, et comme cela a déjà été dit, Diotrephe refuse de recevoir les frères de passage qui proclament pourtant la vérité de l'Évangile. Troisièmement, et c'est encore pire, il empêche les membres de l'Église qui veulent exercer l'hospitalité envers les prédicateurs itinérants en les intimidant. Quatrièmement, il les chasse. Il met le comble à son ignominie et utilise sa position pour excommunier ceux qui osent lui tenir tête. Il va sans dire que par son comportement odieux et en refusant le gîte et le couvert aux prédicateurs, Diotrephe freine la progression de la parole de Dieu. Mais on peut être sûr que c'est son dernier souci, parce que sa devise est « diriger ou détruire ». Ce tyran n'est rien d'autre qu'un hooligan qui utilise la religion pour défendre son taf contre ceux qui perçoivent comme une menace pour son pouvoir. Il a l'attitude du dictateur ecclésiastique qui aime se mettre en évidence, qui refuse de servir qui que ce soit et qui veut qu'on soit à son service avec tapis rouge et sonnerie de trompette. Prétentieux et sûr de lui, Diotrephe fait le beau, aime s'entendre parler et n'a besoin de personne. Il fait penser à la fable de La Fontaine, de la grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf. Sa conduite est peut-être banale en politique, mais scandaleuse dans l'Église de Jésus-Christ. On comprend aussi pourquoi Jean dit à Gaius de ne pas se laisser intimider par ce tyran, de tenir ferme et de continuer son ministère d'hospitalité. L'orgueil et la soif de pouvoir sont presque toujours à l'origine des conflits humains, y compris dans les assemblées chrétiennes. Le plus tragique est que par crainte de la confrontation ou au nom de la tolérance, les responsables de l'Église refusent souvent de prendre les mesures nécessaires à l'égard de leur diotrephe. Jean, par contre, n'a aucune intention de se laisser marcher sur les pieds. Malgré son grand âge, il va confronter cet impie pour le bien de l'Église et pour l'honneur de Jésus-Christ. Le responsable d'Église, mais aussi le musicien, et celui ou celle qui a une belle voix, ainsi que tous ceux qui ont un talent quelconque, peuvent être tentés de se croire supérieurs aux autres et vouloir se hausser par-dessus d'eux. Cependant, Jésus dit, « Si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. »